Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. À présent avec Tribunal Latino-Americana et avec Maria Reyes et Nestor Vega. Et notre invité, Zelma Michelini, qui est fondateur de l'association Dondestan. Et donc je transmets à Maria maintenant la tâche de l'interviewer.
Lise, bonsoir. Delmar, merci de venir pour la première fois, me semble-t-il. Je rappelle avant tout le numéro du studio sur lequel vous pouvez nous appeler pour intervenir pendant les plages musicales, 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. Également une adresse mail, tribunalat@gmail.com. Vous pouvez également nous écrire pour avoir les podcasts ou d'autres informations. Donc je reviens, Zelmar, merci. Merci à toi.
Bonsoir à tous les amis de Radio Libertaire. Et merci à vous surtout pour votre invitation. C'est la première fois qu'on vient. J'espère que ce ne sera pas la dernière.
Mais en tout cas,
merci beaucoup et voilà.
Très bien. Est-ce que tu peux te présenter et présenter également l'association que tu représentes?
Bon, moi, je m'appelle Zelmar Michelini. Je suis uruguayen. J'habite en France depuis 1976, où je suis arrivé en qualité de réfugié politique. En France, à partir de 1976, en pleine dictature en Uruguay, nous avons créé un comité qui s'appelait Comité de défense des prisonniers politiques, qui s'est dissous une fois la dictature finie en Uruguay en 1985. Bon, voilà. Et puis en 1997, nous avons fondé ici à Paris une association qui s'appelle Dondestan, Où sont-ils ? Dont le but premier, c'est d'aider les familles des disparus en Uruguay, victimes des dictatures, de la dictature uruguayenne, aussi bien en Uruguay qu'en Argentine, dans la recherche de leurs proches. Et aussi, l'association Dondestan se propose aussi, et je pense qu'on fait beaucoup là-dessus, de lutter contre l'impunité, de lutter pour la justice, donc pour la vérité. Et aussi, un travail de mémoire, c'est-à-dire... sur deux versants. D'une part, bon, faire connaître aux citoyens français, parce qu'on est en France, ce qui a été la dictature uruguayenne, ses caractéristiques, ce triste, son sombre bilan en matière de droits de l'homme. Et puis, nos souvenirs... et commémorer la mémoire de tous nos camarades disparus, assassinés, morts en prison. Voilà, donc, et ce travail-là, et nous le menons à terme, nous le développons depuis 1997. Et nous avons, on viendra peut-être plus en avant, raconter les types d'activités que nous faisons. Mm-hmm.
Oui, plutôt vers la fin, et si tu as des événements annoncés, on le fera vers la fin. Dans une première partie, on va parler de cette dictature uruguayenne et le plan Condor aussi, à laquelle elle appartient. C'est vrai que quand on pense au plan Condor, on pense forcément aux dictatures du Cône Sud, et la dictature uruguayenne, me semble-t-il, est l'une des moins connues. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'un petit pays, mais à vrai dire, ayant fait moi-même des recherches sur Internet, c'est pas facile de trouver des informations exactes. Il y a beaucoup d'informations différentes. Donc, à quoi c'est dû déjà tout cette ombre ou ce flou?
Moi, je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, c'est la nature géostratégique, pour ainsi dire. C'est-à-dire que le cas chilien, la dictature chilienne et la dictature argentine ont eu un impact international beaucoup plus grand. Il faut se rappeler que la dictature uruguayenne, les coups d'État en Uruguay, c'est en juin 1973. Les coups d'État au Chili, c'est en septembre 1973. Les coups d'État en Argentine, c'est en mars 1976. Les coups de l'Uruguay, c'est un petit pays. C'est un tout petit pays, moins grand que la Belgique, et situé entre l'Argentine et le Brésil, qui sont deux grands pays de l'Amérique du Sud. Et puis, l'importance économique, politique, géostratégique, elle est moindre en Uruguay que par rapport à l'Argentine et au Chili. Au Chili, il y a eu un impact très fort parce que c'était un coup d'État contre un gouvernement socialiste, contre un gouvernement de gauche, qui a débouché sur la mort de Salvador Allende. Tandis qu'en Uruguay et en Argentine, c'était des coups d'État où la droite succédait à la droite. C'est-à-dire qu'il y avait il y a déjà une nature un peu différente. C'est-à-dire que la dictature uruguayenne, elle naît sur une histoire de rétablissement de l'ordre. Il y avait une guérilla d'abord qu'il fallait anéantir, c'était les Tupamaros, mais il y avait aussi des mouvements sociaux, il y avait beaucoup de grèves, il y avait une instabilité, que c'était l'instabilité qu'il y avait presque dans tous les pays de l'Amérique du Sud. Tandis que au Chili, il y a eu un coup d'État où il fallait mettre fin à une expérience très intéressante, très riche, très importante, avec un gouvernement qui menait à l'époque des mesures anticapitalistes même très, très importantes. Donc, je pense qu'en partie, c'est dû à ça. Mais le fait d'être moins connu, ça ne veut pas dire que ce soit la moins violente ou la moins...
Bien sûr.
Sadique, pour ainsi dire, parce que même si on est un petit pays, il y a 3 millions d'habitants, il y a eu, à partir du coup d'État, mais quelques années auparavant aussi, parce que il ne faut pas oublier que toujours derrière un général, il y a un civil. C'est-à-dire que les forces armées n'agissent pas toujours.
Elles ne peuvent pas, de toute façon.
Donc, et aussi bien en Uruguay, en Argentine qu'au Chili, les forces armées interviennent, l'armée intervient, mais très souvent, par ordre, presque, j'ai envie de dire, des bourgeoisies locales et de l'impérialisme américain. C'est-à-dire qu'ils sont très présents, surtout dans les années 60-70, derrière la répression et derrière les coups d'État. Donc, voilà, pour faire une synthèse, la dictature uruguayenne, les coups d'État, c'est le 27 juin 1973, avec des dissolutions du Sénat et de la Chambre des députés, intervention de la justice, suppression de l'autonomie des universités, illégalisation des partis politiques et des syndicats, et fermeture de la plupart des journaux. Et la dictature finit en mars 85. Le gouvernement militaire est épuisé, donc il commençait à avoir déjà, depuis 3 ans, depuis 82, il commence à avoir beaucoup de mobilisations des étudiants, des syndicats. L'Uruguay est très, très perméable à ce qui se passe en Argentine depuis 82 et la défaite de l'armée argentine aux Malouines. Donc il y a où les pouvoirs militaires argentins s'effondrent et un peu qui, dans son effondrement, entraîne beaucoup de régimes et surtout l'uruguayen. Donc c'est une dictature qui était très... Ce sont des criminels, non, qui ont été très, très durs dans la répression Ils ont instauré une torture systématique, pas seulement dans le but d'obtenir des renseignements pour finir avec les organisations sociales, politiques, mais comme un instrument d'instaurer la terreur, de faire peur, de discipliner. C'est-à-dire que tout prisonnier politique, au-delà de son importance ou pas, qu'il soit vraiment engagé, qu'il soit un dirigeant ou un militant des bases, qu'il soit vraiment responsable de quoi que ce soit ou rien, va subir une séance de torture. Il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, 5000 à un moment donné.
En Uruguay.
En Uruguay, il y a une population de 3 millions d'habitants, 5000 prisonniers politiques. Donc c'est un taux énorme. À l'époque, à Paris, quand on dénonçait la dictature uruguayenne auprès des responsables politiques français, des journaux, on disait que les taux des prisonniers politiques uruguayens rapportés à la France, ça donnait plus de 100 000 prisonniers politiques. Mmh. Donc c'est quand même impressionnant. Et puis beaucoup de gens poussés à l'exil. Et il y a aussi beaucoup de morts dans les prisons parce que le régime carcéral était très sévère. Il y avait une politique de destruction de l'être humain en prison, c'est-à-dire que soit par l'isolement, parce que beaucoup de sanctions disciplinaires envers les prisonniers qui étaient isolés, donc essayer de provoquer soit l'épuisement physique,
soit
la folie, c'est-à-dire. Et puis il y a aussi beaucoup de disparus, parce que la dictature uruguayenne, à partir de 1975, fait partie du plan Condor. Le plan Condor était créé par une idée d'un général chilien qui était celui qui dirigeait la DINA, qui disent, bon, il faut qu'on coordonne tous nos efforts, toutes les armées, pour en finir d'une fois pour toutes avec les communismes, l'anarchisme, le guérilla, les subversifs, les syndicats, tutti quanti. Et donc, le plan Condor, c'est la coordination de toutes les forces armées de la région, de l'Amérique du Sud, pour intervenir dans cette
territoire. L'absence de frontières.
Dans les territoires d'autres, ce sont des répressions sans frontières. Et dont les principales réserves de chasse, pour ainsi dire, c'était l'Argentine. Parce que, selon la chronologie dont on parlait tout à l'heure, coup d'État en 73 en Argentine, donc beaucoup de gens qui se réveillent en Uruguay, beaucoup de gens qui se réfugient en Argentine. Coup d'État au Chili, beaucoup de gens qui se réfugient en Argentine. Et donc, dans les années 74-75, il y avait beaucoup de militants de toute l'Amérique du Sud qui étaient en Argentine, où il y avait encore une démocratie, entre guillemets, peut-être, mais qui est devenue un piège mortel. Parce que quand les militaires argentins donnent le coup d'État en mars 76, il décide qu'il n'y aura pas de prisonniers. Et donc, il lance une répression tout assimilée. Et il dit qu'il ne faut pas avoir des prisonniers. Donc, il instaure d'une façon claire la politique des disparitions forcées. Et il s'invite, dans le cadre du plan Condor, à toutes les armées de voisines à venir et à faire la même chose. Donc, voilà les cadres.
D'accord. Du coup, à partir de quand s'est organisée la répression en Argentine, avant le coup d'État même?
Mais non, même avant le coup d'État. Avant le coup d'État, il y avait déjà des coordinations, des polices, etc. Mais il n'y avait pas... Le plan Condor, c'est intéressant parce qu'il y a une réunion officielle qui donne le nom, etc. Et donc, et qu'il décide d'une façon explicite, même documenté, d'organiser cette répression-là. Mais avant la répression, avant le plan Condor, la répression s'est donnée dans un contexte de coordination, mais pas vraiment comme objectif commun. C'est une coordination. Et puis, s'est donnée quand même dans un État qui était encore un peu un État de droit. C'est-à-dire qu'en 1975, il y avait encore les institutions argentines, la justice, etc. Bon, ça va vite fait disparaître, parce qu'au même temps, en Argentine, il y avait des escadrons de la mort, il y avait la sinistre AAA, Alianza Anticommunista Argentine, et donc il y avait déjà une répression. Mais les coups d'État libèrent les forces armées de toute contrainte juridique et politique, parce qu'il prend le pouvoir. Et cette liberté leur permet d'organiser les plans Condor avec les Chiliens. Et puis, c'est tout là.
Très bien. Et si on essaie de faire un profil des victimes en Uruguay, qui elles sont ? J'ai bien compris que tu me disais que ça pouvait être n'importe qui, mais... Il suffisait d'être de gauche, finalement, pour...
C'est-à-dire que, la répression... il y a deux étapes dans la répression en Uruguay. Il y a d'une part, comme partout en Amérique latine, en suivant l'exemple de Cuba, il y a des guérillas qui s'organisent partout. C'est-à-dire qu'en 1959, s'est produite la révolution cubaine. La révolution cubaine triomphe. Et consolide son pouvoir, et ça en fait d'entraînement en toute l'Amérique latine spectaculaire. Dans une décennie, que c'est les années 60, où ça bouillonnait, ça mobilisait de partout. Et donc, en Uruguay, il y a une guérilla qui s'appelle Movimiento de Liberación Nacional, plus connue comme les Tupamaros, qui est une guérilla assez populaire, surtout connue dans le monde par ses coups des mains audacieux, parce qu'il avait enlevé des diplomates, parce qu'il avait réussi à organiser la fuite des prisonniers politiques, aussi bien des femmes que des hommes. Donc, il y avait cette guérilla-là. Donc, il y avait une volonté de l'État de réprimer cette guérilla-là, qui était une guérilla qui, au début, n'était pas très violente, à différence de la guérilla en Argentine, où il y avait... une violence déjà très, très élevée. En Uruguay, il y avait peu d'assassinats, peu de morts dans des affrontements. Donc, il y a cette répression-là. Il y a en même temps la mobilisation sociale. C'est-à-dire que, comme partout en Amérique latine, les pouvoirs politiques disent qu'il faut rétablir l'ordre parce qu'il y a des gens qui prennent les armes, qui ne respectent pas les lois de la République, ne respectent pas la démocratie, etc. Mais en même temps, ils profitent, sous prétexte de combattre la guérilla, pour combattre les mouvements sociaux. Mmh. C'est-à-dire qu'on décrète l'état d'exception et puis on ne trouve pas des guérilleros en prison parce qu'ils sont clandestins, par définition. Ouais. Mais il y a toutes les dirigeants syndicaux qui vont en tôle, qui vont en prison. Il y a cet aspect-là. Et après, il y a quand même l'affrontement avec la guérilla s'est endurci dans l'année 71-72. À ce moment-là, le président José María Bordaberry, élu en 1971, décide en 72, après une journée d'affrontement entre guérilleros et policiers, d'instaurer, de charger l'armée de réprimer la guérilla. Et donc, elle approuve une loi qui s'appelle loi d'état de guerre interne, par laquelle l'armée va s'occuper du maintien de l'ordre public, de combattre la guérilla, avec deux instruments. D'une part, la torture, qui de fait est officialisée. C'est-à-dire que les pouvoirs civils de l'époque donnent libre cours à la torture. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est la seule façon pour régler les problèmes. C'est comme on faisait pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire on crée des commandos spécifiques, on fait dans un mur l'organigramme de l'organisation, on commence à prendre les gens, on les torture, on obtient l'information, on arrive à les détruire. Et le deuxième aspect, c'est la justice militaire. C'est-à-dire que toutes les personnes arrêtées par l'armée ne vont plus être jugées par la justice civile en fonction d'un code pénal qu'en Uruguay, il faut le reconnaître, était assez, assez libéral, hein, sinon qu'ils vont être jugés par des tribunaux militaires. Mm. Donc ce sont des tribunaux militaires qui, en principe, ne sont conçus que pour juger des militaires, qui vont juger des civils. Bon. Et en plus, ils vont juger des civils engagés dans la guérilla, mais aussi des civils qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que toutes les gens, à partir du 14 avril 72, tous les gens qui sont arrêtés, que ce soit des guérilleros ou des dirigeants syndicats, et syndicaux ou des dirigeants politiques, vont être jugés par l'armée. Et la justice militaire, c'est tout sauf de la justice. Hein. Surtout la justice militaire, ce sont des tribunaux qui sont sous commandement de l'état-major de l'armée. Donc ce sont eux qui... Et voilà, et donc c'est cette répression-là qui va amener à la dictature, parce que les militaires sont engagés dans, la, dans, dans le maintien de l'ordre, du moment où on lui donne le pouvoir du maintien de l'ordre, à la fin, les militaires vont revendiquer le pouvoir tout court.
Oui, pouvoir total. Très bien. Maintenant, on va parler des conséquences de cette dictature, on l'aura compris. Beaucoup de gens torturés, des disparus. Est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de victimes uruguayennes?
Oui, il y a plus de... Il y a... Des disparus, pour commencer. Il y a plus de 200 disparus, parmi lesquels une vingtaine d'enfants.
Et des bébés volés.
Je reviendrai. Mais, si vous voulez... Jusqu'au plan Condor, la répression en Uruguay, c'était arrêter les gens, les juger par la justice militaire, des peines parfois très très lourdes. Beaucoup de gens ont fait 14 ans de prison pour des crimes ou des délits. Des conditions de la torture, comme je disais, et puis des conditions d'incarcération très, très violentes, très, très nuisibles. Beaucoup de suicides dans les prisons, beaucoup de folies ensuite, beaucoup de gens qui sont devenus fous, qui ont été, et puis beaucoup de gens qui ont vraiment été abîmés physiquement. Et un troisième aspect en Uruguay, mais qui est de la répression aussi, c'est que tous les citoyens étaient classés dans des trois catégories, A, B, C. Donc ceux qui étaient catégorie A, ils n'avaient aucun problème. Ceux qui étaient de la catégorie B, ils n'avaient pas le droit d'avoir des emplois, d'être fonctionnaires, de travailler pour l'État. Et ceux qui étaient fonctionnaires et travaillaient pour l'État étaient licenciés. Et puis la catégorie C, ils étaient soit poussés personnes non grates, soit poussés à l'exil, soit à des exilés internes. C'est-à-dire qu'ils figuraient dans des listes noires, ils ne pouvaient presque pas travailler, etc. Donc ça, c'est... Et puis, il y a la répression dans le cadre du plan Condor. C'est-à-dire que les militaires uruguayens, après les coups d'État en Argentine, ils sont allés en Argentine. Il y a des commandos, dont on connaît les noms, etc. Et ils ont enlevé beaucoup de gens. Ils sont tués aussi. Et puis, ils sont transférés illégalement en Uruguay et ils sont exécutés ces gens en Uruguay. Et donc là, on parle de plus de 200 disparus en Uruguay, dont la presque totalité disparue en Argentine. C'est-à-dire que jusqu'au plan Condor, l'Uruguay n'avait pas envisagé une politique de disparition forcée. Rappelons que la disparition forcée, c'est l'État ou les agents de l'État qui prend un prisonnier, qui arrête quelqu'un, ne rend pas compte de cette arrestation, les maintient pendant une période, et puis ils apparaissent
plus de traces, donc plus invisibles. Voilà.
On sait que beaucoup, on sait qu'en fait, ils ont été tués à la longue.
Tous.
Mais il faut dire quand même que c'est un état singulier, parce que pour les familles, ce n'est pas la même chose. Savoir qu'un parent a été tué, que quelqu'un qui a disparu, avec une politique de désinformation, en disant on ne l'a pas, etc. Et donc, L'Uruguay, il n'y avait pas de disparus. Le seul disparu, on a une quinzaine de disparus en territoire uruguayen, c'était des gens qui étaient morts sous la torture. Et donc, les militaires ne voulaient pas rendre compte de cette mort-là, parce qu'il fallait faire une autopsie, etc. Donc, ils les donnaient comme disparus. Ceci dit, en Uruguay, quand les forces armées répriment la guérilla, ils pratiquent déjà un début de disparition forcée. C'est-à-dire qu'on arrêtait les gens et on les gardait 30 jours, 45 jours, sans reconnaître qu'on les avait arrêtés. Dans le seul but de pouvoir bien les torturer et avoir les informations. Donc, et après, ils étaient
relâchés.
Ils ne s'étaient pas relâchés. Après, ils disaient, oui, nous l'avons arrêté. Ils donnaient des fausses dates d'arrestation, etc. Donc, voilà les bilans. Ce sont ces disparus-là qui ont pour notre association-là une place à part. Parce que, d'abord par la cruauté de la situation, c'est-à-dire des mères, des familles, des enfants qui ne savent pas où se trouvent ses parents, ses fils, etc. Et ensuite parce que, selon les lois, selon le droit international, la disparition forcée, c'est un délit permanent. Et tant que c'est un délit permanent, tu ne peux pas être amnistié. Et ça nous servait, à nous aussi, c'était un point d'appui pour lutter contre l'impunité en Uruguay. Parce que, hélas, chaque fois qu'on parle de répression, le mot qui vient ensuite, c'est impunité. C'est l'État qui organise la répression et après organise sa propre impunité. Et en Uruguay, ce n'est pas un cas isolé, donc ça a été la même chose. En 1985, il y a un gouvernement et un rétablissement de la démocratie, ou en tout cas de l'état de droit. Il y a un président qui s'appelle Julio María Sanguinetti, qui devient président. Il est élu grâce à la proscription de ses principaux rivaux. Donc c'est une élection organisée par les militaires dans le but d'avoir un président civil qui soit un ami.
Faire illusion un peu.
Et c'est le cas, parce que Julio María Sanguinetti, il avait été ministre des présidents civils qui avaient organisé la répression, en particulier de José María Bordaberry. Et lui, il avait même dit, la torture, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que jamais il a condamné la torture, il a toujours... Et donc, il a organisé l'impunité. On s'est retrouvé avec des lois d'impunité. Une loi qui s'appelle loi de la caducité de la prétention punitive de l'État, par laquelle, une loi qui a été votée en 1986, par laquelle les pouvoirs exécutifs décidaient si un crime pouvait être poursuivi, un crime de la dictature, ou les militaires inculpés ou dénoncés par les crimes qu'ils avaient commis, pouvaient être jugés ou pas. Et donc, sauf que cette loi-là, elle établissait un délai, c'est-à-dire que tout crime commis entre le 27 juin 1973, date du coup d'État, et le 1er mars 1985, date du rétablissement de la démocratie, ne pouvait pas être jugé. Mais dans la mesure où la disparition forcée, c'est un crime permanent, il échappait à cette,
à cette limite de temps.
Donc ça a été très important de ce point de vue aussi. Mais l'association d'Ondestin, en plus d'être solidaire des parents, des familles, des disparus et de toutes les victimes de la dictature, elle lutte donc contre l'impunité, pour la justice, la vérité et la non-répétition. C'est-à-dire que dernièrement, dans le droit international, il y a une... selon toutes les leçons tirées des dictatures, on dit aussi qu'il faut le travail de justice, de vérité, de mémoire, ce sont des piliers pour que ces choses-là ne se reproduisent pas.
Nunca más.
Nunca más. Hein. Hélas, c'est plus jamais, c'est nunca más. Actuellement, il est un peu mis en doute parce que il y a beaucoup de répression en Amérique latine actuellement, en Amérique du Sud en particulier, au Chili singulièrement, et on assiste à toutes les horreurs du passé. Mm. C'est-à-dire que l'armée, chaque fois qu'un gouvernement civil affronte une crise, comme en Équateur ou au Chili, il envoie tout de suite l'armée à réprimer. Hein. Et là où l'armée passe, les crimes fleurissent, c'est-à-dire qu'on éclore. C'est-à-dire qu'au Chili, depuis un mois et demi, ou deux mois presque, les manifestations, on a eu des disparitions, des violations, des tortures. C'est-à-dire dans un contexte de répression des manifestations de rue, ce qui est très, très, très grave.
C'est sûr. Je voulais en revenir au procès qui ont été réussis relatifs aux militaires. Justement, malgré cette loi d'amnistie, il y a eu quand même des procès. Je sais que Dandestan, tu expliquais, s'est porté partie civile.
Oui, nous avons surtout...
Alors, comment s'est fait ce processus?
Non, en fait, nous avons... Depuis la fondation de l'association, nous avons dit en dialogue avec les camarades qu'il fallait aller vers la justice, qu'il fallait chercher toutes les voies possibles, toutes les petites ouvertures qu'on pouvait trouver dans la...
Ce qui pourrait être une faille, finalement. Voilà,
de trouver les failles de cette loi. Et donc, une des failles, c'était la...
La date, ce que tu as
dit. Une des failles, c'était les...
La durée.
Les dates de la loi d'impunité. D'accord. Sauf que on a présenté un cas qui était avant les 27 juin 1973. Il y a un juge qui a dit ça m'intéresse, je vais instruire ce délit-là. Il a dû, comme la loi l'établit, envoyer les dossiers au pouvoir exécutif pour avoir l'autorisation d'instruire la demande judiciaire. Et le pouvoir exécutif, il a dit non, ce n'est pas possible. Même. Donc, déjà, il violait sa propre loi. Une deuxième faille qu'on a trouvée, c'est celle du délit permanent. C'est-à-dire que la disparition forcée, c'est un délit permanent. Du moment où elle est permanente, elle se prolonge. Ouais. Du moment où elle se prolonge, elle échappe à la date aussi. Bon, on a présenté une demande parce qu'il y avait eu des déclarations d'un ancien chef de la police uruguayen pendant la dictature qui reconnaissait qu'il y avait des disparus, disait même où ils avaient été enterrés, etc. Donc, il y a un sénateur qui a présenté une demande. Il y a un juge qui s'appelait le juge Reyes qui a accepté la demande, qui est allé vers le pouvoir exécutif pour lui dire, bon voilà, j'ai cette demande-là, est-ce que je peux instruire, etc. On lui a dit que non, à nouveau. Et donc, et puis finalement, on a trouvé encore une autre faille, c'est que la loi d'impunité, cette loi dont j'ai donné le nom de caducité de la prétention punitive de l'État, parce que le pouvoir civil... De droite, et qui avait été complice de la répression avant le coup d'État, ne voulait pas donner la face. Au fait, il ne voulait pas apparaître comme un pouvoir qui amnistiait les militaires. Donc, ils avaient trouvé ce mécanisme de dire, bon, on n'amnistie pas, mais on ne juge pas. Donc, mais cette loi-là, elle concernait seulement les militaires. Et donc, moi et ma famille... Parce que moi, je suis le fils d'un sénateur qui a été assassiné dans le cadre du plan Condor. Nous sommes allés devant la justice en disant, bon, voilà, il y a des responsables militaires, mais il y a aussi des responsables civils. Mmh. Et donc nous avons des preuves que le président José María Bordaberry, qui c'était un président qui avait été élu en 71 dans des élections normales, pour ainsi dire, hein, mais qui avait été à la tête du coup d'État. Hein. Mmh. En Argentine, les coups d'État, ce sont les militaires qui ont mis hors du pouvoir, qui ont écarté du pouvoir à la présidente de l'époque, c'était María Isabel Perón. Hein. Au Chili, c'est un coup d'État qui a débouché sur l'assassinat, sur la mort de Salvador Allende, mais qui était aussi un pouvoir civil qui était déplacé. En Uruguay, c'est le président élu en 72, mmh, démocratiquement, qui se met à la tête du coup d'État. Mmh. Mais c'est un civil.
Ouais.
Donc, étant donné qu'il est un civil, il n'est pas compris par la loi d'impunité. Mmh. Et donc, nous avons présenté une demande contre lui et contre son ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Juan Carlos Blanco, qui était très... C'était un des théoriciens, quand même, de la dictature. C'était
l'idéologue.
Voilà, un des idéologues. Des idéologues très à droite, assez fascistoïdes. C'est-à-dire que très influencés par les fascismes espagnols, c'est-à-dire par le franquisme. Et donc, ces deux responsables civils, nous avons présenté une demande contre eux et ils ont été jugés. Le gouvernement n'a pas pu s'opposer parce que là, ça aurait été grotesque. Hein. Grotesque parce que c'était quand même le président qui était civil. Tout le monde savait que c'était un civil. Grotesque parce que ça concernait aussi l'assassinat d'un sénateur et du président de la Chambre des députés. Donc, ils ont été condamnés. Ils ont été jugés.
Reconnus
coupables. Et ils ont été condamnés à plus de 20 ans de prison chacun. Donc, José María Bordaberry, il a obtenu parce que la prison domiciliaire, mais après, il est mort dans sa maison, mais dans un très bon état de santé, pour ainsi dire. Et puis, Juan Carlos Blanco, lui, il est toujours en prison.
D'accord.
Et parce que lui, il a été aussi jugé par d'autres cas de disparition.
D'accord. Et entre la première tentative de jugement et justement cette réussite, il y a un laps de combien d'années ?
Ah, beaucoup.
Ben oui, j'imagine.
Trop même. Trop même, parce que en 85, c'est la fin de la dictature. En 86, on vote la loi d'impunité.
Oui. Hein,
et seulement en 2004, hein, Bordaberry, oui, et Juan Carlos Blanco sont condamnés. Donc, il y a eu quand même beaucoup de temps. Mais après, c'est-à-dire que... Mais après, en 2004, il y a un changement de gouvernement. Il y a la gauche qui arrive au pouvoir. Mmh. Et donc, et ça a accéléré quand même les cours de la justice. Parce que même si la gauche n'a pas abrogé la loi d'impunité, mmh, il l'a utilisée dans un sens contraire. La loi d'impunité votée par la droite, son but était donner au pouvoir exécutif le pouvoir de ne rien faire. Mmh. Avec la gauche, le président Tabaré Vázquez, c'était le premier président de gauche dans toute l'histoire du pays, lui, chaque fois qu'il recevait une demande de la justice en lui disant « Voilà, il y a telle famille, telle personne qui présentait une demande contre des militaires pour la disparition d'un fils, d'un frère, d'un père, d'une mère. Hein. Le président Basque disait il n'est pas compris dans la loi des caducités. Mmh. Et donc, la justice allait de l'avant. Et il y a eu quand même une vingtaine de militaires qui ont été jugés et condamnés. Et parmi eux, Gregorio Álvarez, hein, qui était celui qui avait remplacé Bordaberry dans la présidence. C'était un des militaires les plus emblématiques. Et aussi, ont été arrêtés, jugés et condamnés les cadres de l'armée, les officiers, les plus engagés dans la répression quotidien, c'est-à-dire les hommes des mains, hein, c'est-à-dire les commandos qui sont allés en Argentine, un peu partout. Mais c'était un nombre limité. Et curieusement, au début, on entendait souvent dire, chaque fois qu'on faisait des démarches, on nous disait, vous savez, il y a un petit nombre de militaires qui vont être condamnés, mais après il n'y aura plus rien, parce qu'il y a un pacte secret entre, entre les militaires, les civils, certaines forces de gauche, etc., des anciens guerrilleros, pour que ça n'aille pas au-delà de ces gens-là. Donc moi, personnellement, je n'étais pas convaincu de ça. Mais quand la gauche arrive au pouvoir, il commence à avoir des procès, des condamnations, etc. Chaque fois que ça, qu'on sortait de ces listes, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il était sauvé. C'est-à-dire que donc, malheureusement, la justice n'est pas allée beaucoup plus loin que ces nombres limités d'une trentaine de militaires. Pour l'instant.
Parce que, donc l'idée d'un pacte est peut-être...
Parce qu'entre-temps, une fois que la gauche est arrivée au pouvoir, la loi des caducités de la prétention punitive de l'État, la loi d'impunité, a été déclarée inconstitutionnelle par la justice. Hein, 30 ans après. Hein, et donc ça a donné un nouveau cours. Et puis la gauche a quand même créé une fiscalité... a nommé un fiscal... un procureur, chargé de tous les droits des violations des droits de l'homme, etc. Donc, il y a actuellement plusieurs procès en cours, plutôt que procès, plusieurs instructions en cours, dont une qui nous tient très au cœur, qui est celui de présenté par 28 femmes, et qui ont présenté une plainte pour violence sexuelle pendant la répression. C'est-à-dire des femmes qui dénoncent avoir été violées, avoir été abusées, etc. Et donc avoir subi des tortures sexuelles. Et donc c'est une cause très importante parce que c'est la première fois qu'on réussit à que les femmes prennent le courage d'aller devant. C'est pas toujours... ce n'est jamais facile.
C'est pas facile.
Ce n'est jamais facile de s'exposer comme ça sur la place publique pour dire voilà, je t'ai violé, on m'a fait ceci, cela. Et donc, mais c'est cette cause-là, elle nous tient à cœur, on la soutient, elle existe depuis 8 ans qu'on est en bataille déjà, c'est toujours très difficile.
C'est très long, oui.
Mais très long. Là, maintenant, il y aura bientôt une démarche auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et donc, voilà. Mais il y a d'autres...
J'imagine.
Oui, il y a d'autres causes. Donc, on a quand même actuellement une centaine de procès en cours. Et pour ça, il a été créé par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, une organisation qui s'appelle l'Observatorio Lucy Barbour. C'est l'observatoire qui a un site où... On établit la liste de tous les procès en cours. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a aussi, actuellement, on est en train de... Une initiative qui est très intéressante, c'est celle de numérisation des archives de la dictature. Et c'est un travail collectif. C'est-à-dire que n'importe qui peut, en Uruguay ou à l'extérieur... rentrer sur un programme et aider à numériser les archives de la dictature où il y a des choses très...
Ça veut dire que ces archives sont disponibles.
C'est-à-dire qu'on a retrouvé des archives.
Ouais.
Ces archives-là, pendant un certain temps, le gouvernement les a laissées un peu de côté. Mais il y a 3 ans, on a réussi à obtenir
la
copie des microfilms. Oui, mais non, c'est pas la déclassification, c'est au fait, on a trouvé des archives, quand la gauche est arrivée au pouvoir, il y a une ministre, une femme qui était ministre de la Défense, qui a été une attitude très courageuse, et donc elle a retrouvé des archives, C'est des microfilms, parce qu'à l'époque c'était des microfilms, maintenant c'est des rouleaux de microfilms avec 3 millions de documents. Hein?
3 millions.
Oui, 3 millions de feuilles. Donc, le problème c'est qu'on a déjà fait, on a déjà travaillé, on a déjà passé du microfilm au format PDF.
Numérique,
oui. Numérique, mais pas la reconnaissance du traitement de texte. C'est-à-dire qu'on a des documents qui n'ont pas. Donc, avec la faculté, un groupe d'ingénieurs, des étudiants et des ingénieurs de la faculté d'ingénieurs de l'Uruguay, ils ont mis un programme qui permet de reconnaître les textes, hein, pour pouvoir intervenir comme si c'était du traitement des textes. Sauf que, comme ce sont des microfilms qui ont été transformés en PDF, hein, et ce PDF a été reconnu par un programme de reconnaissance des textes. Il y a beaucoup de coquilles, des choses que... Ben et oui. Donc, ils ont mis à point un programme pour lequel... Un programme qui s'appelle Luisa, en hommage à une des femmes qui a dirigé les groupes des familles des disparus, auquel on accède. Et ce programme nous montre des textes. Et donc, on copie les textes et on valide. Et comme ça, on est en train de reconstituer des milliers de documents. C'est intéressant parce que c'est une participation collective. Souvent, beaucoup de gens nous disent « qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, c'est un travail très... Parce qu'on commence déjà à retrouver des informations dont on n'avait pas la moindre idée. Des traces de... Y compris pour les disparus.
Mais c'était l'original, je n'ai pas compris s'il était manuscrit ou écrit à la machine.
C'était tapé à la machine. D'accord. Une fois qu'il était tapé à la machine, on voit d'ailleurs, c'était microfilmé. Ce sont des microfilms qui ont été longtemps comme ça, un peu à l'abandon, où ils étaient. Donc, d'une qualité très,
j'imagine.
Très mauvaise. Donc, c'est un gros travail, mais ça nous a permis déjà d'obtenir pas mal d'informations, parmi lesquelles... des documents concernant quelque chose qu'on ne savait pas, que c'était la continuité de l'espionnage pendant la démocratie. C'est-à-dire qu'en 1985, donc tout le monde à peu près s'imaginait que l'État et ses policiers ne restaient pas inertes, mais on n'avait pas les preuves et surtout on ne savait pas. On n'avait pas idée de la dimension que ça avait pris et de la complicité des civils qui nous gouvernent. Donc...
C'est sûr. Voilà.
Donc, et parmi notre aide aussi, justement, c'est de soutenir. Nous soutenons financièrement cette initiative-là. Nous soutenons l'observatoire aussi. Nous soutenons de façon morale, et matérielle et financière tous ces type d'activité. Et pour ça, si vous me permettez de passer un petit... Petite publicité, nous avons l'association, elle a un restaurant associatif. Qui fonctionne tous les vendredis.
À partir de 19h, c'est ça?
À partir de 19h, 19h30. La 19h30 plutôt, la parrilla.
Ouais. Hein?
Et la parrilla se réunit tous les vendredis au 21 terre rue Voltaire. Là où il y a nos amis du CICP. Et c'est un endroit pour nous très important parce que c'est convivial. On retrouve des gens de tout horizon et de tous les pays. Et c'est très important parce que tout ce que nous récoltons financièrement va destiné à la lutte contre l'impunité en Uruguay sous toutes ses formes.
Bien sûr.
Soit pour la justice, soit pour mettre aussi des plaques commémoratives. Enfin, on fait tout type d'aide.
Alors, la parrilla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le barbecue, c'est ça?
Oui, le barbecue.
Le barbecue, c'est
la viande
donc, pour y avoir été, c'est une viande d'une qualité exceptionnelle.
Oui, c'est une viande d'une qualité exceptionnelle. Nos amis végans voudront nous excuser, mais c'est...
Pas de vache folle. Et pour les végétariens, il existe aussi
des empanadas.
Donc il y a un peu tout. Et en dehors de cette parrilla hebdomadaire à partir de 19h, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de réservation.
Il n'y a pas de réservation.
vaut mieux arriver, pas trop tard. Pas trop tard, et parfois aussi il y a des concerts, des artistes qui viennent.
C'est-à-dire que chaque vendredi, il y a aussi un numéro musical, ce sont
On mange en musique.
Voilà, on mange en musique, voilà.
Très bien. Et en dehors de ce restaurant une fois par semaine, vous faites d'autres activités?
Non, nous faisons beaucoup d'activités.
Donc, où est-ce qu'on peut vous suivre ces activités?
Ces activités, on a une page Facebook pour commencer, qui s'appelle Dondestan. C'est facile à trouver. Et là, il y a toutes les informations de ce qui se passe, un peu de ce qui se passe dans les pays, mais surtout de ce que nous faisons ici, ce que nous organisons là. Et puis, il y a un site, dondestan.free, où il y a toutes sortes d'informations sur ce que nous faisons ici, sur ce qui se passe dans les pays.
C'est www.dondestan.com.
Voilà, tout à fait. Voilà, merci, parce que je n'avais pas en tête tout à fait la... Mais c'est bien cette adresse-là. Et donc là, vous allez trouver aussi bien en espagnol qu'en français des informations concernant les pays actuellement, toute la lutte contre l'impunité, etc. Et puis, nos activités.
Donc, toi, concrètement, tu recherches des bénévoles peut-être pour le restaurant? Tu en as?
Oui, on a. C'est une activité, la Paris, c'est une activité bénévole. C'est-à-dire que ce sont chaque vendredi... Une quinzaine de personnes qui, après avoir arrêté de travailler à 5 heures, se retrouvent à 7 heures à dresser les tables, à préparer la nourriture. Et puis voilà. Donc, nous, on cherche des bénévoles peut-être pour la Paris, mais surtout, on cherche un soutien qui.
Donc, sur la page Facebook et sur le site, on peut trouver comment
soutenir. Oui, on trouve comment soutenir.
Simplement une question concernant la jeune génération qui est, disons, informée de toute cette histoire. Est-ce que les livres d'histoire en parlent? Déjà, il y a des étudiants et des chercheurs qui travaillent donc sur ces documents retrouvés. Ça, c'est important en université. Mais à part ça, je pense dans certains pays, et c'est vrai que même au Chili, il y a une génération qui n'a pas toujours su, enfin celle quand même qui a 40 ans, qui est toute jeune, a vécu les militaires en classe avec le salut au drapeau. Mmh. Est-ce qu'en Uruguay, la transmission s'est faite?
Disons que en Uruguay, dès que la gauche est arrivée au pouvoir en 2004, et là elle vient d'être battue en 2019, elle a perdu l'élection par une petite différence de voix. Mais donc, pendant les 15 ans que la gauche a gouverné, autant sur certains aspects du dossier disparu, justice, etc., nous a laissé un peu sur notre faim. Il faut bien dire qu'elle a ouvert quand même les réseaux d'éducation et les réseaux culturels à ce travail de mémoire et d'histoire. C'est-à-dire que les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations qui luttent pour les disparus contre l'impunité, ils vont dans les écoles, dans les lycées, ils font des conférences. Donc il y a un travail très important là-dessus. Il y a aussi, depuis 3 ans, on a créé... Par injonction de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, l'Uruguay a dû créer un site de mémoire spécifique. Là où avait à Montevideo, là où il y avait fonctionné les centres d'intelligence, où il y avait eu des tortures. Et là, il y a tout un travail de mémoire. On est actuellement dans un travail aussi de pose de plaques ou des. Là où il y a eu des disparus, d'assassinats. Là-dessus, il y a un travail. Et je pense que la jeunesse répond présent.
D'accord.
Chaque année, chaque fois, chaque 20 mai en Uruguay, il y a ce qu'on appelle la marche du silence. Et c'est à l'appel des familiares, de l'organisation des familles, des parents des disparus, des mères et des familles des disparus. Il y a une marche du silence qui réunit toujours autour de 100 000 personnes. Et c'est pour commémorer les disparus, pour se souvenir des disparus, pour demander que la vérité soit établie, et pour lutter contre l'impunité. Et donc, et toujours, chaque 20 mai, les bilans, la première conclusion qu'on tire, c'est quand même qu'il y a, depuis 20 ans, la jeunesse dit « répond présent ». Donc ça, c'est
encourageant.
C'est important. Ouais.
Très bien. Est-ce que prochainement, il y a une activité prévue pour Donnerstall?
Bon, pour commencer, le 17 janvier, c'est la réouverture de la Parige. Et puis, oui, nous sommes en train d'établir nos programmes d'activité. Il y aura au mois de février ou mars, on ne sait pas encore très bien, il y aura une exposition qui s'appelle « Sang de mon sang ». C'est une exposition sur d'une photographe uruguayenne sur les enfants retrouvés.
Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler.
Voilà, c'est ça. Et donc, cela, elle va voir à la mairie du 10e arrondissement, fin février au début mars. Là, les dates n'ont pas été encore tout à fait fixées. Et il y aura aussi, avec l'aide de la mairie du 10e arrondissement, la projection de deux films sur les disparus en Uruguay.
Très bien.
Donc, ça, c'est.
Il est important de nous en informer pour qu'on puisse relayer l'information.
Fin février ou début mars. La date n'a pas été encore tout à fait
fixée
encore, mais on va vous tenir au courant.
Super, parce que Lise pourra l'annoncer.
Je crois me rappeler qu'il y avait une vingtaine d'enfants retrouvés, c'est ça?
Oui, on a deux cas emblématiques. C'est celui de Macarena Gelman, qui était la petite fille d'un poète, qui a été enlevée en Argentine quand elle était enceinte, transférée à. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un enfant qui s'appelle Macarena Gelman, qui était la petite fille du poète argentin Juan Gelman. Et c'est un cas typique du plan Condor, parce que c'est une femme, et sa mère a été enlevée enceinte en Argentine, transférée clandestinement en Uruguay, où elle a accouché d'une petite fille qui était Macarena. Donc, une fois qu'elle a donné naissance à Macarena, on l'a gardée avec l'enfant pendant un mois, qui lui donne le sein maternel. Et puis, elle était séparée, la fille a été donnée à un commissaire de police, et la mère de Macarena, Helma, a été assassinée et enterrée clandestinement. On n'a pas trouvé son corps. Mais Macarena Gelman, elle est née en 1977, elle a été retrouvée en 1999, c'est-à-dire 22 ans après. Et bon, c'est une belle histoire parce qu'après, elle a beaucoup milité pour les disparus, elle est devenue députée, donc elle était.
Et les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée, est-ce qu'elle avait conscience elle-même d'être.
Non, elle ne savait pas.
Donc là encore, c'est des.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle a appris qu'elle était fille d'un disparu. Donc c'était. Parmi les activités que nous avons faites, nous l'avions invitée à Paris. Elle a donné une conférence de presse, etc., il y a une dizaine d'années déjà. Et donc, et en parlant avec elle, c'était quand même quelque chose de terrible. Parce que un jour, elle est quelqu'un, le lendemain, elle est quelqu'un d'autre.
Quelles sont vos actions vis-à-vis de ces bébés volés?
Bon, maintenant, la plupart des enfants volés, uruguayens, ont été retrouvés.
D'accord, très bien.
Ils ont été parmi les premiers à être retrouvés. Mais il y a eu ce cas-là, et puis il y a un autre cas que c'est Simon Riquello. Eux, ils ont pris beaucoup de temps, 22 ans, mais autrement, c'est.
D'accord, c'est une petite lueur d'espoir. Donc peut-être un petit mot de la fin, Zelmar Michelini, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu veux conclure avec
quelque chose? Juste dire qu'il y a une situation actuellement en Amérique latine, en Amérique du Sud en particulier, assez inquiétante, parce qu'il y a des mouvements sociaux avec des revendications précises. des plus de justice sociale, des plus d'égalité. Au Chili en particulier, avec il demande que l'éducation soit gratuite, comme dans beaucoup de pays. Et les seules réponses, ou en Équateur par exemple, où il y a eu les Fonds monétaires internationaux a voulu imposer un plan d'austérité très dur. Et donc il y a des mouvements sociaux, il y a des mobilisations populaires. Et la seule réponse des gouvernements, c'est la répression. Et ça, c'est très inquiétant.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Zelmer. On ne va pas te retenir plus longtemps.
Je voudrais rajouter justement à propos du journaliste uruguayen que je viens de trouver un article qui m'a été transmis, traduit d'un article de Raoul Zibeki, qui est un grand journaliste uruguayen. Et c'est sur le Chili, ça s'appelle « Le pouls de l'avenir, 50 jours dans la rue ». Et
on pourra le lire.
On pourra le lire.
On fait
et oui. Je le transmettrai à Zelma. Voilà.
Je l'ai
Vous le connais.
Oui, je le connais. Il est exilé. Il a un certain temps été à Paris aussi. Donc c'est...
D'accord, une vieille connaissance.
Une vieille connaissance, oui. D'accord.
Très bien. Bah, on va faire une pause musicale. Et après, on va lire ces articles et continuer sur l'actualité latino-américaine. Merci beaucoup, Zelmer.
Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à tous les amis de Radio Libertaire.
Merci.
Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de fe, de Pedro y María, de Juan y José. Le aseguro que es un gringo o dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que se aproxima, le aseguro que es un grito o dueño de Bolivia. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Que Bolivia es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.